Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi avec Raymond et Elisabeth. Dans notre dernière émission, nous posions la question « Image et ressemblance de Dieu, qu'est-ce à dire ?» Alors, aujourd'hui, on va évoquer les réponses données à cette question dans l'histoire par les pères de l'Église, puis au Moyen-Âge, et puis dans les temps modernes et contemporains. C'est une question donc qui s'est posée toujours, et pour les pères de l'Église, l'homme n'est compréhensible que dans sa relation avec Dieu, et toujours dans une relation dynamique. On a évoqué un commencement, un achèvement, un homme créé à l'image de Dieu qui doit devenir ensuite à sa ressemblance, et sur ces questions, il y a eu les réponses successives des pères de l'Église. Alors, pour Irénée de Lyon.
Alors, pour Irénée de Lyon, il se pose la question de image et ressemblance. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, pour lui, c'est l'incarnation qui révèle le contenu de la ressemblance en donnant un visage humain au Verbe de Dieu. Dans cette vision ternaire de l'homme qui vient de saint Paul, l'homme est corps, âme et esprit. Et tout ce dynamisme doit révéler la ressemblance de l'homme avec le Sauveur.
Pour Origène, on est un peu dans le même esprit.
Oui, pour lui, l'homme est à l'image de Dieu, mais cet homme à l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme corporel, c'est l'homme intérieur. L'image est aussi, nous dit Origène, à la ressemblance du Sauveur. Parce que lui, il est l'image par excellence. Et toute l'œuvre de l'homme, c'est de passer de l'image à cette ressemblance, à cette conformité
passer de l'image à la ressemblance
au Sauveur.
Alors, Grégoire de Nice.
Alors, lui, il ne fait pas de différence entre image et ressemblance. La parenté de l'homme avec Dieu reste un mystère, mais se connaître en vérité, dit-il, c'est connaître sa parenté avec Dieu. C'est passer du non-être à l'être et à l'être divin, et il y a toujours un mouvement.
Il y a quand même la distinction entre Dieu, oui, qui n'est pas créé, et l'homme qui est créé. Et puis ensuite, il y a Augustin.
Alors, pour saint Augustin, l'image et la ressemblance sont ensemble, même dans le péché, parce que Dieu est celui qui seul peut suffire à l'homme. Et que l'homme, qui cherche la connaissance de Dieu, a cette capacité. Il y a toujours encore cette idée de dynamisme à chercher cette connaissance de Dieu.
Et alors là, c'est aussi toute une liberté qui amène l'homme à se tourner vers Dieu. Mais la notion de liberté chez Augustin est un peu curieuse. Il dit, mais c'est pas le pouvoir du choix.
Non, il distingue la vraie liberté, qui pour lui est la liberté
de suivre finalement,
de suivre Dieu, de s'ouvrir à Dieu, et le libre arbitre, qui est là où s'exerce la capacité de choix.
Et où s'exerce aussi la possibilité de pécher.
Et la possibilité de pécher.
Mais c'est quand même, là aussi, c'est le Christ qui est le signe du salut, et c'est aussi l'image du Christ qui est l'objectif final. Donc on peut dire, en synthétisant, que pour tous ces pères de l'Église, il y a un dynamisme qui amène l'homme à être, autant que faire se peut, à la ressemblance de Dieu. Comment ces choses se passent au Moyen-Âge? Parce que là, il y a une rupture, et puis on parle de nature et surnature.
Oui, alors au Moyen-Âge, on a retrouvé un peu la pensée d'Aristote qui va dévier un petit peu la réflexion de l'idée de créature à l'idée de nature. Et il va falloir expliquer comment l'homme va vouloir chercher Dieu. Et c'est là qu'intervient l'idée de surnaturel, de surnature.
Nature, surnature, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Lorsque le concept de nature remplace celui de créature, c'est la relation à Dieu qui s'efface. Parce que l'homme nature est différent de l'homme créature. Si l'homme est créature, sa nature est inséparable de l'action créatrice de Dieu. Et Dieu créateur, donc il y a une relation entre eux. Et pour exprimer ce qui relève en l'homme de la relation à Dieu, on parle alors de surnature, surnature, surnaturel. Surnaturel, il y a à la fois le souvenir de la Bible, le céleste opposé au terrestre. Mais le langage de l'homme, sa réflexion intellectuelle, le pousse à remonter à la cause première, à se poser la question d'où je viens, à s'intéresser aussi à son devenir, donc à réfléchir sur Dieu. Cette séparation entre nature et surnature a amené à négocier entre les deux. Alors, on imagine une création à deux étages, la nature, auquel s'ajoute le surnaturel. Surnaturel, c'est-à-dire ce qui relève de la foi, de la prière, de la grâce. On voit aussi animal rationnel, auquel le surnaturel est comme un surplus. Ou bien on voit création, à laquelle on ajoute une finalité surnaturelle. Dans cette perspective, on a imaginé que l'homme non-croyant ou non-baptisé vit selon le schéma, l'expérience de l'homme naturel. C'est ainsi, par exemple, que l'enfant mort sans baptême arrive au limbe. On voit que toutes ces questions, image, ressemblance, nature sur nature, ramènent à l'alliance entre Dieu et l'homme. Don gratuit de Dieu à l'homme, place de la grâce, quête de l'homme envers Dieu, initiative de Dieu qui se communique à l'homme. La formulation a nourri diverses réflexions au Moyen-Âge, notamment avec saint Thomas, puis Luther qui pose le problème de la grâce, et ses détracteurs lui répondent. Elles ont été débattues jusqu'à notre époque, et entre nature et surnature qui habite l'homme, il y a des mises au point du magistère, une réflexion. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Après la réflexion menée dans les années 50, ce dualisme a été tout à fait contesté et on a une réponse intéressante qu'évoque le père Sesboué dans le livre « L'homme merveille de Dieu ». C'est la réflexion de Karl Rahner qui voit une unité originaire entre la nature et la surnature parce que l'homme qui s'interroge sur lui-même, sur ses comportements, sur sa structure fondamentale, sur ses choix pour exister, cet homme qui s'interroge en chrétien a une démarche qui le tourne vers Dieu et nous sommes dans une réflexion chrétienne. Donc la réponse chrétienne de Karl Rahner, c'est dans un premier temps l'homme comme être de transcendance. Qu'est-ce à dire ?
Alors cet être de transcendance se manifeste par la subjectivité de l'homme. Alors, c'est d'abord une présence à soi-même qui est la marque de la conscience autour de deux pôles. Notre activité de connaissance, c'est ce que Karl Rahner appelle le pôle du langage, les catégories de la connaissance, la science, la technique, etc. Et un autre pôle plus difficile à définir parce qu'on ne peut pas le saisir facilement, c'est notre subjectivité, c'est l'acte d'être présent à soi, c'est la réflexion. Ce qui se passe quand je réfléchis sur un sujet et qui me renvoie non seulement à ce sujet, mais aussi à moi-même.
Ce qui amène un deuxième temps, parce que l'homme, dans ce cas, s'ouvre à l'infini. Il s'éprouve comme être de connaissance, mais ce questionnement l'amène à se dépasser.
L'amène à se dépasser parce que l'homme, il sait qu'il est fini, mais en même temps, il est habité par un désir infini de connaître et de vouloir aussi. Et de prendre conscience de sa propre finitude, c'est déjà la dépasser. Ce que disait Pascal.
Oui, c'est ça. L'homme passe l'homme, on retrouve cette idée. Donc l'homme s'éprouve comme être de connaissance et comme esprit. Et le troisième temps, c'est ce questionnement est inéluctable.
Oui, on ne peut pas y échapper. L'homme peut peut-être s'enfermer dans sa vie, dans ses questionnements, mais il ne pourra jamais échapper à la question fondamentale qui l'habite et qui est la question du sens de sa vie. Même s'il choisit que sa vie n'a pas de sens, de décider de penser que sa vie n'a pas de sens.
Ce qui pose la question de la liberté de l'homme. C'est aussi dans cette réflexion que s'éprouve aussi la liberté. C'est le lieu de notre liberté.
Oui, parce que Karl Rahner dit, dans la mesure où je m'éprouve comme personne, je m'éprouve comme libre. D'une liberté qui vise ma personne une et totale dans l'accomplissement de son être.
Alors, ce qui amène Karl Rahner à poser le choix d'un mystère absolu auquel l'homme est affronté et d'un existentiel surnaturel. Alors, l'existentiel, on voit bien ce que c'est. C'est l'homme qui réfléchit à ses comportements dans son histoire, qui dispose de lui-même. Et Karl Rahner va plus loin en disant, cet homme qui se pose obligatoirement les questions, eh bien cela intervient, cette quête du mystère absolu qui habite l'homme, l'amène à ce qu'il appelle un existentiel.
Alors l'existentiel pour lui, c'est ce qui va affecter les comportements de l'homme. C'est un existentiel qui est surnaturel parce qu'il engage le don de Dieu, l'appel de Dieu et le don de Dieu quand il se communique. Et ça permet à Karl Rahner de concilier le caractère essentiel à l'homme du surnaturel et de refuser le dualisme. Parce que le surnaturel est gratuit complètement et est présent dès le départ de la création.
S'interroger sur l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, ou bien chercher comment la créature désire voir Dieu, met en scène une démarche active, un dynamisme de l'homme en quête de Dieu, en réponse à l'acte créateur de Dieu qui appelle l'homme à partager sa vie divine. Et l'homme qui s'interroge en chrétien sur ce qu'il est, qui s'interroge sur l'accomplissement de son être chrétien, l'homme qui est habité par un désir infini dans l'ordre de la connaissance, de l'être, qui repousse ses limites, cela pose la question du sens de la vie, du mystère qu'il est lui-même. Il l'oriente ou non vers l'absolu, vers cet autre que nous appelons Dieu. Entre Dieu qui crée l'homme et l'appel à la vie divine et la créature qui répond à cet appel si elle se rend disponible à son créateur, il y a une connivence spirituelle. Cette connivence spirituelle, à l'intérieur d'une réflexion chrétienne sur l'homme, dépasse le dualisme nature sur nature et fait communiquer Dieu et l'homme. Bien sûr, là, nous restons à l'intérieur d'une réflexion chrétienne sur l'homme. Et au moment où l'athéisme fait entrer la majorité de nos contemporains dans un monde sans Dieu, il faut entendre les objections de la modernité. Cette vision de l'homme qui balaye Dieu, évidemment, interroge la réflexion qui a pu être posée dans le livre de Bernard Sesboué sur l'homme en relation avec Dieu. Et ce sera l'objet de notre prochaine émission. Bonne semaine à tous.